Papyrus, Alain Maillard.
Après Sumer et Babylone, après l'Égypte, d'autres peuples se structurent qui, chacun à sa manière, nous laissera un héritage. Nous voyagerons cette semaine chez les commerçants phéniciens et carthaginois, chez les hébreux monothéistes, dans l'Empire perse. Aujourd'hui, on commence avec la première civilisation importante de la région qui n'est pas sémite, mais indo-européenne. Ce sont les Hittites. C'est le troisième pôle de civilisation ou de pouvoir qui se forme aux alentours du 18e siècle avant Jésus-Christ sur les plateaux d'Anatolie, formant ainsi désormais un triangle avec la Babylonie et avec l'Égypte, avec laquelle ils rivalisent même de puissance, mais ça ne durera pas très très longtemps. Exploration en compagnie d'un hittitologue, enseignant en langues anciennes à la Sorbonne et directeur de publication d'une revue universitaire qui s'appelle Koubaba, du nom d'une déesse syrienne. Michel Mazoyer, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui sont-ils, ces Hittites? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'on en sait, au fond?
Alors, les Hittites constituent pour nous quelque chose de très important, parce qu'il s'agit de la première civilisation indo-européenne connue dont nous disposons de textes. Et donc, bon, c'est un apport considérable pour la compréhension d'autres civilisations indo-européennes. Et la découverte des Hittites qui s'est faite dans les années, au début du XXe siècle, a apporté beaucoup de choses aux sciences humaines et à l'histoire de l'Antiquité.
Par exemple?
Alors, par exemple, sur le plan linguistique, certaines intuitions qui avaient été avancées par des savants au début du XIXe siècle, par Saussure, par exemple, se sont trouvées confirmées grâce à la découverte de cette langue qui a été redécouverte donc et décryptée en 1915 par le tchèque Rozny. Donc la découverte de cette langue a montré que Saussure, certaines intuitions de Saussure étaient tout à fait exactes. Et puis dans le domaine linguistique, dans le domaine de la grammaire, à proprement parler, de la syntaxe, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de comprendre les autres langues par comparaison. Dans le domaine de la religion aussi, beaucoup d'éléments peuvent recevoir une explication grâce au texte hittite. Il n'y a pas seulement quelques inscriptions, mais les tablettes sont très nombreuses, les textes sont très nombreux. Et donc, ça a été une accélération considérable au XXe siècle dans le domaine des sciences humaines.
Alors, on va revenir sur tous ces aspects, notamment sur les croyances des Hittites, Michel Mazoyer. Mais d'où viennent-ils quand ils apparaissent là, vers 2000-1800 avant Jésus-Christ?
Donc, les Hittites, comme je le disais il y a un instant, constituent un rameau indo-européen.
Qu'est-ce que c'est au fond, les indo-européens?
Alors, les indo-européens, c'est très difficile à cerner. Hein. Il s'agit probablement d'un conglomérat de peuples ayant des langues voisines, des civilisations voisines, et qui se sont répandues à des époques différentes, aussi bien dans l'Europe occidentale qu'en Orient, jusqu'en Inde.
Et, donc pratiquement toutes les populations européennes sont de ce groupe indo-européen.
En grande partie. Mm-hmm. Le français, évidemment, est une langue indo-européenne issue du latin, comme vous le savez, bien sûr. Mm-hmm. Donc beaucoup de langues en Europe sont des langues indo-européennes. Donc la plus ancienne langue connue aujourd'hui est représentée par le hittite. Donc on voit tout de suite évidemment l'intérêt de cette langue.
A-t-on une idée d'où viennent originellement ces indo-européens?
Alors ça, c'est un débat entre spécialistes. C'est quelque chose de très complexe. Il y a eu des tests totalement contradictoires qui ont été avancés. Donc je vous propose d'aller visiter notre site où il y a un document très intéressant qui fait le point sur cette question très très compliquée, très complexe. Donc vous avez consulté notre site, il y a un article de Jacques Freuc, un des meilleurs hittitologues aujourd'hui, un hittitologue français, et qui fait le point sur cette question.
Le site de votre revue, Koubaba, voilà. K-U-B-A-B-A. Donc les Hittites sont un rameau, comme vous le disiez, de ces Indo-Européens. Voilà. Donc ils viennent là en Anatolie, ils se mêlent à d'autres populations peut-être?
Alors ils appartiennent donc au rameau qu'on appelle le rameau anatolien. Dans le rameau anatolien, vous avez différentes langues, différents peuples qui sont représentés. Vous avez l'hittite, qui est la langue la mieux connue aujourd'hui, mais vous avez également le louvite, qu'on comprend maintenant d'une façon assez nette. Vous avez des langues comme le palaïte aussi. Donc le hittite appartient à cette catégorie, langue anatolienne, la famille anatolienne. Comment on suppose qu'il y a eu, mais c'est une supposition de savant, qu'il y a eu une langue mère pré-anatolienne et que cette langue peut-être aurait donné lieu aux Hittites, d'autres aux Louvites, d'autres aux Palaïtes, etc.
Donc comment se développe cette civilisation-là, à cet endroit? Est-ce parce que ces populations sont arrivées et ont trouvé un terrain prospère? Est-ce qu'il y a des avancées technologiques? Qu'est-ce qui explique l'émergence de cette civilisation hittite?
Alors la première chose, c'est que... apparemment, d'après ce que nous disent les archéologues, il n'y a pas eu de destruction violente, il n'y a pas de traces d'incendie, de bataille. Donc on pense aujourd'hui que c'est par infiltration lente qui se sont mêlés à la population locale. La population locale était la population Hatti. Et les Hatti parlaient une langue qui n'était pas, elle, indo-européenne. Alors, les hasards de l'histoire ont fait très bien les choses, car les Hittites ont mis par écrit cette langue Hatti. Donc on connaît partiellement cette langue. Donc c'était la langue qui était parlée 3000 ans, au 3e millénaire en Anatolie. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ils nous ont légué des bilingues, hittites, hatti.
Ces hittites fondent des villes?
Alors les hittites, on sait qu'ils étaient en Anatolie vers à peu près 1800 avant Jésus-Christ, grâce à des textes qu'on a retrouvés dans la région de Kanesh, au centre de l'Anatolie. Alors c'était des textes écrits en vieil assyrien par les marchands assyriens qui avaient établi des colonies à cet endroit. Et dans ces tablettes, on écrit en assyrien, c'est-à-dire dans une langue qui n'est pas une langue indo-européenne, eh bien on trouve quelques termes hittites. Donc on a la preuve que dès 1800 avant Jésus-Christ, les hittites étaient en Anatolie.
Leur ville se développe, et notamment leur capitale qu'ils placent à Hattusa.
Voilà, alors c'est à l'époque d'Hattusili que les hittites vont créer la ville. Les hittites vont faire de cette ville Hattu, c'est une ancienne ville Hatti, dont je vous parlais tout à l'heure, la ville de Hattusa, qui va être pratiquement la capitale des hittites pendant toute leur histoire, sauf, il y a une éclipse de quelques années. Donc c'est une ville extrêmement importante.
De quoi a-t-elle l'air?
Alors, à l'époque, c'est une ville, comme aujourd'hui d'ailleurs, tout à fait gigantesque, avec de très nombreux temples. Ce qui frappe les observateurs aujourd'hui, c'est le nombre de temples qui ont été mis à jour. Et un palais royal, des murailles. On dit que les Hittites sont les inventeurs des villes de montagne. Pour des raisons idéologiques, ils ont accordé une importance considérable à la pierre dans leur construction. Et cette ville de Hattusa, la capitale, effectivement, semble marquée par la pierre. Les constructions sont en pierre et les fondations sont énormes, les portes sont énormes et les fortifications sont considérables.
J'ai lu que les murs d'enceinte sont d'une épaisseur de 8 mètres, ce qui paraît inimaginable.
Tout à fait. Donc on a une impression de puissance. Et les archéologues contemporains ont essayé de restaurer au moins partiellement une partie des remparts. Et si vous allez en Anatolie, il faut absolument aller voir Hattusa. Souvent, ce n'est pas cité parmi les villes importantes, les sites importants à aller voir, mais c'est quelque chose d'essentiel pour l'Anatolie.
Une ville très fortifiée, Michel Mazoyer, ça veut dire que c'est une société très militaire?
Alors, évidemment, il y a tout un débat là-dessus. Les Hittites ont été le contraire d'un peuple pacifique. Ils ont mené beaucoup de guerres. Le roi avait pour fonction de faire la guerre, mais c'était un rôle secondaire pour le roi. Les Hittites n'ont jamais donné beaucoup d'importance à la guerre, même si dans les faits, ils étaient constamment en guerre, aussi bien contre des ennemis extérieurs que contre des ennemis intérieurs. Mais la guerre était considérée comme quelque chose relativement néfaste. On le voit dans la mythologie. Par exemple, le dieu de la guerre devient dieu de la guerre à la suite d'un châtiment. Vous n'avez pas une exaltation de la guerre comme on peut avoir dans d'autres civilisations. Le roi hittite est essentiellement un prêtre. C'est lui qui est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et donc quand on le représente souvent sous la forme d'un prêtre. Donc la guerre est importante, certes, parce que à l'époque, il faut évidemment se prémunir contre tous les dangers, mais il n'y a pas une exaltation de la guerre comme dans d'autres civilisations.
Pourtant, il y a à un moment donné une montée en puissance de ce royaume hittite, un affrontement notamment avec l'Égypte. On a l'impression qu'à ce moment-là, c'est un royaume qui a des ambitions de puissance et de conquête.
C'est un royaume, effectivement, qui a eu des ambitions de conquête, qui, sur le plan militaire, a rivalisé avec les grandes puissances de l'époque, avec l'Égypte en particulier, ou la Mésopotamie. Les Hittites sont allés jusqu'à Babylone. Mais il n'en reste pas moins que dans l'idéologie, la guerre occupe une place secondaire. Le rêve des Hittites, c'est de ne pas faire la guerre. Ils font la guerre pour éviter de la faire, en quelque sorte. C'est pour se prémunir contre des ennemis réels ou potentiels. Mmh. Mais on a dans les textes une exaltation de la paix, de la prospérité agraire. Et donc, c'est un peuple qui ne cultive pas la guerre pour la guerre. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les dieux hittites, dont je vous parlais un instant, sont placés à une position qui est une position secondaire parmi les autres dieux. Donc tous ces éléments nous montrent qu'il s'agit fondamentalement, d'un point de vue idéologique en tout cas, d'un peuple profondément pacifique. Même si, bon, donc il avait une puissance guerrière et militaire considérable.
Écoutez Papyrus sur la première, à la découverte des Hittites, une civilisation du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Je vous propose maintenant d'écouter un mythe hittite dans une version qui est présentée par Théodore Gaster dans un livre sur les plus anciens contes de l'humanité. Et ça s'appelle « Le dieu qui disparut ».
Le dieu de l'orage et le dragon qui habite les profondeurs des eaux étaient ennemis de longue date et ennemis acharnés. Chacun s'imaginant être plus puissant que l'autre. Quand le dieu de l'orage faisait souffler et siffler ses vents, le dragon faisait rugir et gronder ses vagues. Et si le dieu de l'orage envoyait la foudre et la pluie, il était une fois un dieu puissant nommé Télépinou qui donnait la fertilité à la terre. Il se fâcha à cause de la méchanceté humaine et décida de disparaître et de se cacher. Il était si furieux qu'il ne put même pas prendre le temps de mettre ses chaussures convenablement, et attachant sa sandale droite à son pied gauche et sa sandale gauche à son pied droit, il s'en alla en grande colère. Aussitôt, tout sur terre fut bouleversé. C'était comme si le printemps et l'été ne devaient jamais revenir. Les rivières et les lacs restaient gelés, la neige ne voulait pas fondre. Tous les arbres demeuraient privés de feuilles, et dans les prés, pas un seul brin d'herbe n'apparaissait. Dans les étables et dans les bergeries, les bœufs et les moutons se serraient les uns contre les autres. Dans les maisons, les hommes se pressaient autour du foyer où les cendres s'amoncelaient jusqu'à être de la hauteur d'une montagne, et il était impossible de voir par les fenêtres tant elles étaient recouvertes de suie et de fumée. Il faisait si froid, pour comble, que personne ne pouvait sortir pour vider les détritus et se procurer de la nourriture, et le monde entier était menacé d'une terrible famine. Lorsque le dieu soleil qui voit tout et dont les yeux suivent toutes les créatures s'aperçut de ce qui se passait, il invita tous les autres dieux et déesses à un banquet. Après qu'ils se furent délectés de mets somptueux qu'il leur faisait servir et qu'ils eurent avalé de copieuses rasades de vin et de liqueurs, il leur exposa nettement la situation. « Mon fils Télépinou, dit-il, a disparu de la terre. Il s'est mis en colère et est parti. Or, il a emmené avec lui tout ce qu'il y a de bon et toute la fécondité du monde. » Lorsqu'ils entendirent ces paroles, les dieux, les grands comme les petits, se mirent immédiatement à la recherche de leurs frères. Ils allèrent sur les plateaux et dans les vallées, sur les montagnes et le long des rivières, et bien qu'ils l'eussent cherché partout, ils ne purent le trouver.
Michel Mazoyer, vous avez consacré un livre à ce dieu Télépinou. Ça s'appelle Télépinou, le dieu au marécage. Cet extrait du mythe que nous venons d'écouter, c'est le début, mais on n'a pas la fin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la suite, peut-être ?
Alors, donc, le dieu Télépinou disparaît. Comme il est dit dans le texte qu'on vient de vous lire, les dieux sont en émoi. La famine s'installe sur la terre. Les hommes disparaissent. Et le panthéon est menacé aussi de mort, car les dieux peuvent mourir chez les Hittites. Et après le repas dont on vous a parlé, le banquet qui se passe plutôt mal, puisque les dieux n'ont plus rien à manger, en fait, on décide d'envoyer. Le dieu de l'orage lui-même décide de retrouver son fils. Il échoue. Les dieux, les petits dieux et les grands dieux recherchent Télébinou, ils échouent à leur tour. Donc on se tourne, le dieu de l'orage se tourne vers Anaana, qui est la grand-mère, qui intervient toujours dans les situations dramatiques. Et Anaana dit au dieu de l'orage, il faut envoyer une abeille à la recherche de Télébinou. Alors le dieu de l'orage est fou furieux, là où lui il a échoué, les autres dieux, les petits et les grands dieux ont échoué, tout le monde a échoué, et Anaana propose d'envoyer l'abeille, donc il est très mécontent. Quoi qu'il en soit, l'abeille s'en va et elle va retrouver Télébinou près de la ville de Lidzina en Anatolie. Et le dieu est en train de dormir à même le sol. Et l'abeille a pour mission, donc, de, après avoir retrouvé le dieu, de le piquer et ensuite de le traiter. Donc elle le pique, mais elle ne peut pas le traiter parce que le voyage a été si long et si fatigant qu'elle n'a plus de miel, elle n'a plus de cire pour traiter le dieu. Donc le dieu se réveille, furieux d'avoir été tiré de son sommeil, et il commence à tout détruire autour de lui. Donc c'est une phase vraiment d'abomination pour les mortels. Les rivières sortent de leur courteau, les fondations sont détruites, des maisons. Donc c'est la fin du monde, hein. C'est le cataclysme, c'est la fin du monde. Donc les dieux, encore une fois, donc, décident d'intervenir pour essayer de calmer ce dieu, apaiser ce dieu Télébinou. Et la déesse de la magie, qui s'appelle Kamosepa, va mettre en œuvre un certain nombre de rituels, à peu près 6 ou 7 rituels, pour apaiser le dieu. Elle parviendra, avec l'aide probablement d'un mortel, qui préfigure peut-être déjà les Hittites, elle parviendra donc à calmer Télébinou, qui va rentrer en Anatolie, dans son temple qu'il avait abandonné. Il va remettre le temple en fonctionnement et il va fonder le royaume hittite. Il va donner au roi hittite une égide, c'est-à-dire un sac, un grand sac de chasseur. Et dans ce sac, il place tous les biens utiles pour le royaume hittite à l'avenir, donc aussi bien des biens agraires que la paix, la prospérité, que la richesse. Et finalement, de cette manière, il crée le royaume hittite. On remarque que dans ce texte, il n'y a pas de place pour la guerre. Donc aussi, c'est très intéressant. Mmh. C'est-à-dire, il va donner la paix, mais il ne donne pas la guerre. Donc on est un peu à l'époque d'un bonheur absolu pour les Hittites, le premier royaume hittite paradisiaque, d'une richesse inouïe. Et dans ce cadre, il n'y a pas de place pour la guerre, comme je disais tout à l'heure.
Ça semble commun à tous ces peuples de la région, l'idée qu'il y a eu un âge d'or, un temps béni où tout allait formidablement bien.
Effectivement, bon, ça apparaît dans beaucoup de civilisations. Tout à fait, oui.
Comment ça s'explique ?
Donner une explication unique, ça semble évidemment impossible aujourd'hui. On ne peut pas savoir s'il y a eu des échanges entre ces civilisations. Ce que l'on sait, par exemple, en ce qui concerne Hésiode, le poète grec, et toute sa conception des premiers temps, on sait que c'est emprunté probablement à un mythe hourrite, et que le mythe grec s'inspire d'un mythe anatolien, d'une autre civilisation qui est la civilisation hourrite. Donc il y a eu des échanges entre ces différents peuples, mais en grande partie, il nous est impossible encore aujourd'hui de restituer les différentes étapes qui ont permis ces échanges. On se contente de dire qu'il y a eu des échanges, des influences, mais comme je viens de le dire, le détail de ces échanges nous échappe en grande partie encore.
Il semble aussi y avoir un autre point commun, c'est l'anxiété face à des catastrophes, des malédictions envoyées par les dieux. On pense par exemple à toute l'histoire du déluge en Mésopotamie et qu'on retrouve également dans la Bible, Michel Mazoyer. Cette anxiété vient-elle du fait que ces sociétés étaient très sensibles à des catastrophes naturelles, par exemple?
Alors, on peut donner une explication littéraire en disant que, comme je le disais précédemment, que les peuples se sont échangés un certain nombre de récits. On peut penser aussi qu'il y a eu des événements, même si on n'a pas de traces historiques, qui ont contribué à forger ces légendes, par exemple. des problèmes de sécheresse intense, comme dans le mythe de Télébinou, ou des problèmes d'inondation, ou des problèmes ou même le déluge, que plusieurs civilisations attestent. Ce sont peut-être des choses qui ont existé et que des peuples ensuite de la région ont pu exploiter différemment, par interpénétration entre ces différentes civilisations.
Votre livre, Michel Mazoyer, s'appelle donc Télébinou, le dieu au marécage, avec pour sous-titre Essai sur les mythes fondateurs du royaume hittite. Vous le disiez, les hittites se distinguent des autres peuples, des autres civilisations que nous avons abordées dans Papyrus, des autres civilisations de la région, comme les Égyptiens ou les Mésopotamiens. Les Hittites sont indo-européens. En quoi est-ce que leurs croyances se distinguent ?
Alors, bon, le mythe de Télébinou, c'est, on peut dire, le plus grand mythe hittite, le mythe le plus important. C'est un mythe qui semble avoir été construit de toutes pièces par un roi qui s'appelle Télébinou, qui prend le nom donc des dieux, et qui correspond à une sorte de révolution idéologique. L'idée qui se dégage de tout ceci, c'est que le royaume hittite, eh bien, ce sont les dieux qui l'ont donné aux Hittites. Il n'y a pas eu d'usurpation du territoire. Le territoire a été confié par les dieux aux Hittites, et ils sont là pour gérer les intérêts des dieux. Donc il s'agit d'une justification du roi hittite et des descendants, enfin, de justification du premier roi hittite, et deuxièmement, une justification des successeurs du roi hittite. Les Hittites sont obsédés par cette question de légitimité du pouvoir. Légitimité sur la terre hittite, et légitimité aussi par rapport aux différents rois qui ont précédé le roi qui est en poste, qui règne.
Le roi gouverne-t-il au nom des dieux ?
Alors, le roi a tous les pouvoirs chez les Hittites, aussi bien un pouvoir politique, un pouvoir militaire, un pouvoir religieux, c'est le grand prêtre de la religion, mais en fait, il n'est que l'administrateur des dieux, c'est-à-dire les dieux lui ont confié le pouvoir, et il ne fait que exécuter les volontés des dieux. Il est là, en contrepartie, il est là pour surveiller que les rituels sont exécutés correctement, que les cultes sont exécutés selon les indications qui souvent ont été transmises par les dieux eux-mêmes. Donc le roi hittite est un être marginal, un peu un être à part, à la fois d'une puissance considérable, mais à la fois l'esclave, en quelque sorte, domestique des dieux.
Comment la volonté des dieux lui est-elle transmise ?
Alors, le terme hittite pour désigner le roi, c'est Assou, c'est-à-dire celui qui est bien né, c'est-à-dire celui qui, à la naissance, est destiné à régner. Et c'est en fait les dieux lui eux-mêmes qui choisissent un individu pour régner. Ce sera le futur roi hittite.
Quel lien a-t-il avec ses créateurs ?
Alors, des liens, c'est le serviteur des dieux. Bon, c'est attesté dans de nombreux textes.
Mais c'est le clergé qui lui transmet, par exemple, la volonté des dieux ?
Alors, il y a recours à de nombreux prêtres. Il examine aussi la volonté des dieux à travers différents rituels. Et donc, il y a tout un appareil liturgique, théologique, des obligations cultuelles, des obligations très importantes, donc qui sont mises au point, évidemment, par le clergé. Et le roi est chargé de surveiller que tout se passe correctement. Un exemple, un des rois hittites importants, un des grands rois hittites, abandonne à la veille d'une bataille, quitte le champ de bataille pour aller 60 ou 80 kilomètres plus loin parce qu'il y a une fête religieuse et sa présence est absolument requise. Donc la priorité, ce sont les dieux. La guerre ou la politique n'intervient qu'après. La priorité absolue du roi, c'est de faire en sorte de faire respecter correctement la volonté des dieux.
Au détriment parfois du bien de ses citoyens ?
Alors, au détriment, non, parce qu'il y a un humanisme aussi chez les Hittites, c'est-à-dire que le roi hittite est là pour faire le bien de ses concitoyens. La preuve qu'il est tout est lié, c'est-à-dire la preuve que le roi est béni par les dieux, c'est que le peuple vit d'une façon prospère.
Comment le sait-on ?
Eh bien, c'est la prospérité même. Si le royaume est riche, si les moissons sont abondantes, si le roi est victorieux militairement, c'est qu'il a la protection des dieux. Si au contraire la disette règne, la famine règne, il n'y a plus d'enfants, le roi connaît des défaites militaires, eh bien ça veut dire qu'il n'est plus béni par les dieux. D'où problème. Pourquoi n'est-il plus béni par les dieux ? Alors là, on a recours à des spécialistes nombreux pour essayer de déceler les intentions des dieux, voir la faute qui a été commise. Alors il y a différentes fautes qui peuvent être commises, mais une des fautes les plus importantes, c'est la faute cultuelle. C'est peut-être ce qui explique le départ de Télébinou qu'on évoquait tout à l'heure. Télébinou quitte son pays parce que le culte n'a pas été respecté comme il devait l'être.
Papyrus, aujourd'hui en compagnie de Michel Mazoyer, hittitologue, pour évoquer justement les Hittites, bien entendu. Prospérité, disions-nous, les Hittites vivent bien ?
Évidemment, c'est difficile de se faire une idée sur le niveau de prospérité. Je pense que ça dépend en grande partie, évidemment, des époques. Alors, il y a plusieurs facteurs qui entraînent la prospérité. Il y a des facteurs climatiques, ça c'est évident, ça transparaît dans les mythes. On l'a vu tout à l'heure avec le mythe de Télébinou, où un des effets du départ de Télébinou, c'est la sécheresse absolue qui va régner. Donc, les Hittites sont confrontés à la sécheresse. La sécheresse entraîne évidemment la disparition ou l'appauvrissement du sol. Il y a les problèmes de guerre aussi qui interviennent et qui peuvent entraîner la famine. Mmh. Et puis, vous avez des périodes de prospérité et les textes historiques. On a un texte très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'édit de Télébinou, du roi dont je vous parlais tout à l'heure, le fondateur probablement du mythe de Télébinou. Il fait la liste des rois, les bons rois et les mauvais rois. Et alors, les bons rois sont les rois qui connaissent ou qui permettent au pays de connaître la prospérité agricole. Et des rois aussi qui remportent des victoires militaires. Inversement, le mauvais roi, c'est celui donc qui entraîne, pour des raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va entraîner l'appauvrissement du sol, la pénurie alimentaire, etc. Surtout parce que ses relations avec les dieux sont mauvaises ou défectueuses.
Que sait-on du mode de vie, de l'habitat
Alors, évidemment, comme dans beaucoup de civilisations antiques, ce que l'on connaît surtout, on connaît ces civilisations par les textes officiels. Donc, il est plus facile de parler du roi hittite que de parler du paysan hittite, d'avoir comment le paysan hittite régnait. Mais en revanche, on a quand même à notre disposition un texte qui s'appelle les lois hittites, qu'on appelle, nous, modernes, les rois hittites, et qui nous donne des indications assez pratiques sur la vie quotidienne, sur les obligations, sur les amendes, sur la sexualité des hittites, etc., etc. Mmh. Donc, à travers ce texte en particulier, on peut se forger sur certains points quelques idées sur la façon dont vivaient les gens au deuxième millénaire.
Qu'est-ce qu'il y a de plus frappant à évoquer ?
Eh bien, on a une société, si on s'en tient aux lois hittites, une société très réglementée. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Réglementée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire tous les cas sont envisagés de la vie du paysan, que ce soit des atteintes portées au champ, des atteintes, des vols de matériel agraire, que ce soit aussi des problèmes de sexualité qui sont évoqués très fréquemment dans les textes. Pourquoi la sexualité ? On aura peut-être l'occasion de revenir. Pourquoi les Hittites ont jugé bon d'écrire un certain nombre de textes là-dessus ? Tout simplement parce que une mauvaise sexualité peut entraîner une souillure du sol, et cette souillure du sol va entraîner la disparition des dieux, comme on l'a vu tout à l'heure en ce qui concerne de Télébinou. Télébinou, c'est probablement pas pour des raisons de sexualité, disons, défaillante, que le dieu est parti, c'est des problèmes cultuels. Mais un sol qui a été souillé par une faute sexuelle notable, c'est un sol qui risque de ne plus produire, qui risque de confiner la population à la pauvreté, à la famine, etc. Donc ces questions, c'est pas d'un point de vue moral, évidemment, que sont abordées ces questions de sexualité, c'est d'un point de vue d'efficacité, de purification du sol. Il faut que le sol soit pur pour produire. Si le sol est impur, il ne produit plus, et à ce moment-là, eh bien, on a toutes les catastrophes qu'on peut imaginer.
Et à propos de sexualité, Michel Mazoyer, justement, vous citez dans un article une lettre qu'on a retrouvée du fameux roi Supilu Liuma, une lettre qui est adressée à un de ses vassaux qui s'appelle Hukana. Voici cet extrait. Attention à une femme du palais. Quelle que soit la condition de la femme du palais, si c'est une femme libre ou la servante d'une femme libre, ne l'approchez pas. N'allez pas près d'elle. Vous ne lui direz pas un mot. Votre esclave, homme ou femme, ne l'approchera pas. Attention à elle. Quand vous voyez une femme du palais, écartez-vous et laissez de la distance entre vous. Qui était Maria et pour quelle raison est-il mort ? La servante d'une femme du palais ne s'est-elle pas promenée et ne l'a-t-il pas regardée ? Mais le père de sa majesté l'a vu de la fenêtre et l'a pris sur le fait et lui a dit « Toi, pourquoi l'as-tu regardé ?» Aussi est-il mort pour cette raison. L'homme est mort juste pour l'avoir regardé de loin. C'est pourquoi, prenez garde. Voilà, c'est un extrait de cette lettre, Michel Mazoyer, c'est assez sévère, hein.
Oui, alors c'est effectivement, c'est assez sévère. Bon, c'est un traité, c'est dans le cadre d'un traité, donc entre le roi hittite et un vassal, et le vassal doit s'installer donc à la cour du roi hittite, et le roi hittite le met en garde. Il lui dit qu'il y a un certain nombre de choses à respecter, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, et une faute à cet égard entraînerait pour le défaillant des catastrophes considérables.
Mais donc la sexualité est très réglementée, mais apparemment pas chez le vassal. Chez ce vassal, alors, il y a beaucoup de liberté.
Oui, alors il semble effectivement que à tout ça, même la capitale hittite, autour du roi, vous avez une sexualité qui est très réglementée. Notamment, une des choses qui semble beaucoup la plus grave aux hittites, c'est l'inceste. L'inceste est considéré comme une faute très grave qui entraîne immédiatement la mort du coupable. Et c'est un inceste au sens large, c'est-à-dire qui peut toucher des générations très éloignées éventuellement, ou des collatéraux très éloigné.
Dans la lettre, Supiluliuma, oui, d'ailleurs, met en garde aussi Oukarna contre tout acte de sexualité avec des personnes de la famille. Oui.
Voilà. Et donc, on sait que chez les Hittites, donc, l'inceste, par exemple, était prohibé. Dans les textes de loi dont je vous parlais tout à l'heure, même chose. On a plusieurs lois qui sont destinées à réprimer l'inceste et la répression est très féroce, puisque c'est la mort du coupable.
Mais il y a d'autres régions où ça se pratique.
Mais il y a d'autres régions qui sont sous la domination hittite, mais qui ne sont pas au centre même du royaume hittite, des régions vassales où ça se pratique et on ferme les yeux. Ce qui semble, ça rejoint un petit peu la problématique que j'indiquais tout à l'heure, à savoir que le roi doit vivre totalement pur, c'est-à-dire à l'écart de toute souillure. Donc plus on se rapproche, on a cette impression que plus on se rapproche de la cour, et plus les gens qui s'approchent de la cour doivent être purs pour ne pas contaminer le roi. Si le roi est contaminé, il ne peut plus communiquer avec les dieux. Et c'est la catastrophe qui s'abat sur l'ensemble du royaume hittite. On a de nombreux textes qui nous montrent que le roi hittite était entouré d'un certain nombre de prescriptions et extrêmement importantes pour éviter justement toute contamination, toute impureté possible.
Donc mieux valait peut-être vivre plutôt loin de tout ça.
D'une certaine manière, oui. Il semble qu'on était plus laxiste et libéral loin de tout ça.
J'ai lu que certains auteurs estiment qu'il y a une dose de matriarcat dans cette société hittite.
Alors ça, c'est une question évidemment qui a été soulevée il y a à peu près une cinquantaine d'années, puisque certaines personnes, certains savants, ont avancé l'idée que la société hittite était une société matriarcale. Alors, sur quoi s'appuyait-il? Eh bien, il s'appuyait déjà sur ce qu'on savait de l'Anatolie à l'époque. Vous savez peut-être qu'il y a une des civilisations les plus anciennes, une des villes les plus anciennes connues à l'époque en Anatolie, c'est Tchataïeuk, qui date à peu près 6000 ou 7000 ans avant Jésus-Christ. Et on a retrouvé à Tchataïeuk un certain nombre de statues, 90% de femmes et de mères, l'homme étant très peu représenté. Donc, alors toutes sortes d'explications évidemment sont intervenues. On a avancé l'idée, mais indémontrable, qu'il s'agissait d'une société matriarcale, puisque seule la femme était représentée. Alors, on a avancé aussi des hypothèses tout à fait saugrenues sur la question. Bon, enfin, je passe. Toujours est-il que dans l'esprit des savants, il s'est forgé l'idée que finalement, dans ces sociétés anatoliennes, le rôle de la femme est un rôle essentiel. Donc, comme la femme.
Mais ça se voit chez les Hittites?
Alors,
voilà.
Alors chez les Hittites, effectivement, la femme joue un rôle relativement important. On le voit notamment dans la religion, puisque la déesse Darina, qui est la parèdre, la femme, disons, du dieu de l'orage, a des pouvoirs considérables. On s'aperçoit aussi que des reines hittites avaient un pouvoir considérable. Elles avaient des sceaux, elles pouvaient communiquer, elles avaient des relations internationales, elles écrivaient des lettres en leur nom. Donc elles pesaient sur la vie politique. Donc on a fait un lien entre ce qu'on connaissait à Tchataïeuk et ce qu'on connaissait à travers les textes hittites. On en a déduit, un peu hâtivement bien sûr, qu'il s'agissait d'une société matriarcale. Aujourd'hui, plus personne ne s'attache à cette idée. Il ne s'agit pas d'une société matriarcale. Je vous parlais tout à l'heure de la déesse solaire Darina, la femme du dieu de l'orage souverain du Panthéon. Bon, c'est vrai qu'elle a des pouvoirs considérables, mais il ne reste pas moins qu'elle a des pouvoirs parce qu'elle lui a fait des enfants. Et celui qui dirige, effectivement, c'est le dieu de l'orage. sa femme n'est que la mère de ses enfants.
Le dieu de l'orage et le dragon qui habite les profondeurs des eaux étaient ennemis de longue date et ennemis acharnés, chacun s'imaginant être plus puissant que l'autre. Quand le dieu de l'orage faisait souffler et siffler ses vents, le dragon faisait rugir et gronder ses vagues. Et si le dieu de l'orage envoyait la foudre et la pluie, le dragon, à son tour, déchaînait la houle et l'inondation. Un jour, leur inimitié dégénéra en violente querelle et ils se mirent à se frapper et à se meurtrir à tel point que, à la fin, le dragon réussit à arracher le cœur et les yeux de son adversaire. Cela n'empêcha du reste pas le dieu de vivre. Contrairement aux hommes, les dieux peuvent en effet vivre sans cœur, mais cela lui porta sûrement un coup funeste et le laissa très déprimé. Pendant longtemps, le dieu de l'orage s'occupa à panser ses plaies et à ruminer sa vengeance, cherchant comment il pourrait ravoir ce que le monstre lui avait volé. Enfin, l'occasion survint. Le dieu de l'orage alla sur la terre et épousa la fille d'un humble paysan qui lui donna un fils. L'enfant étant devenu grand, de qui pensez-vous qu'il s'est pris, si ce n'est justement de la fille du dragon ? Pour celle-ci, bien entendu, son amoureux n'était qu'un simple mortel. Ni elle ni sa famille ne soupçonnaient de qui il était le fils. Le dieu de l'orage, cependant, avait là une chance entre mille, et dès qu'il connut la chose, il résolut de la tourner à son avantage. « Mon fils, dit-il, tu iras bientôt chez cette jeune fille pour la demander en mariage. Lorsque son père voudra savoir ce que tu désires comme cadeau de noces, réponds que tu veux le cœur et les yeux du dieu de l'orage. » Le jeune homme fit ainsi qu'il lui était prescrit. Il demanda le cœur et les yeux qui lui furent aussitôt remis. Il revint chez lui et les donna à son père. Au bout de peu de temps, le dieu de l'orage avait complètement recouvré sa force et il descendit alors vers la mer pour se mesurer avec le dragon. Tonnant, fulminant, soufflant et tourbillonnant, il réussit cette fois à le maîtriser complètement. Mais pendant que la bataille faisait rage, voici que le fils du dieu était reçu dans la maison de son futur beau-père. Lorsqu'il entendit le bruit du combat et vit le dragon s'affaisser, il comprit alors à sa consternation qu'il avait été l'instrument de la vengeance de son père et que celui-ci l'avait entraîné à trahir son hôte, crime suprême. Son honneur et l'antique tradition demandaient réparation de cette offense. Il fit alors monter sa voix vers le haut des cieux, appelant son père. « Père, dit-il, englobe-moi dans ta vengeance, ne m'épargne pas !» Et le dieu de l'orage lui donna satisfaction, et fulminant et tonnant, il vint tuer le dragon en même temps que son propre fils.
Voilà le mythe du dragon pris par ruse, encore une fois un conte présenté par Théodore Gaster dans son livre sur les plus anciens contes de l'humanité, lecture Pascal Bernheim, Michel Mazoyer. C'est une bien triste fin pour cette histoire. Quelle est la morale au fond d'une telle histoire ?
Alors, la morale d'une telle histoire, bon, elle ne nous est pas donnée par le texte, donc c'est à nous de l'imaginer. On sait que ça se termine tragiquement, puisque le fils du dieu de l'orage est exécuté probablement par son propre père. Alors, quelle moralité tirer ? On a avancé l'hypothèse. Je crois que pour le moment, si vous voulez, sur ce mythe, il n'y a pas d'analyse globale, vraiment étiologique, une analyse vraiment satisfaisante sur la signification du mythe. On a avancé l'idée qu'il s'agissait de l'institution du mariage hittite. C'est-à-dire que dans le mythe, si vous voulez, le fils se rend chez son épouse, il va vivre avec son épouse. Et on a avancé, c'est Hoffner qui avait avancé dans les années 70 cette idée. Donc ça c'est une forme de mariage ancien, mariage hâti. Et que le mythe reflétait donc la fin de ce type de mariage. Et que les Hittites, dans le cas des Hittites, donc, c'est plutôt la jeune fille épousée qui va se rendre chez ses beaux-parents. Donc il s'agirait d'une rupture, encore une fois, entre deux institutions différentes, deux façons de vivre différentes, deux histoires différentes. Voilà ce qu'on a pu dire. Il faut savoir de toute façon que ces mythes sont des mythes à caractère sacré, qui sont racontés souvent pendant des cérémonies. Qui ont une signification étiologique pour les Hittites. Et ce sont des textes qui racontent, d'une certaine manière, des événements clés dans la civilisation, de la civilisation hittite.
Il nous reste quelques minutes avant de conclure. En votre compagnie, Michel Mazoyer, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui des Hittites de plus important? Qu'est-ce qu'on leur doit?
Alors, on leur doit aux Hittites d'être, comme je le disais au début de l'émission, le premier peuple connu dont on connaît la langue indo-européenne. C'est un peuple donc qui nous a apporté beaucoup pour la compréhension des autres civilisations, et en particulier qui nous apporte beaucoup pour comprendre les religions de l'Antiquité. Et on s'aperçoit que beaucoup de choses de la civilisation grecque, par exemple, ou de la civilisation latine peuvent prendre une autre interprétation si on rapproche ces éléments de la civilisation hittite. On savait, avant la découverte des Hittites, que beaucoup de choses étaient issues de l'Anatolie. Les auteurs grecs, par exemple, ou les auteurs latins font souvent mention de l'Anatolie. Mais maintenant, on a les textes hittites à notre disposition, et ces textes confirment très largement l'impression que beaucoup de choses de la civilisation grecque sont empruntées à cette ancienne civilisation.
Par exemple ?
Alors, par exemple, dans le domaine des dieux, on savait que Apollon était une divinité qui avait sa place en Asie mineure, qui a joué sa vie, est associée étroitement à l'Asie mineure. En étudiant les textes hittites et en cernant par exemple la personnalité d'une divinité comme Télébinou, on s'aperçoit peut-être que certains traits, je ne dis pas Apollon dans son ensemble, Apollon était une divinité très complexe qui a emprunté à beaucoup de civilisations, mais que certains aspects d'Apollon viennent directement du dieu Télébinou, donc de l'Anatolie. Et un des relais de transmission se situe probablement à Troie.
La ville de Troie.
La ville de Troie. Si, par exemple, on examine les caractères d'Apollon troyen aujourd'hui, on s'aperçoit que cet Apollon troyen a des caractères qui l'apparentent à une divinité hittite. Donc évidemment, pour les savants, c'est une recherche extrêmement précieuse.
Vous-même, Michel Mazoyer, sur quoi travaillez-vous maintenant? Est-ce qu'il y a des objets de curiosité particulières sur place ou dans votre travail à Paris?
Je pense que nous continuons à travailler dans le domaine de la religion, et en particulier les chercheurs actuellement travaillent sur le premier millénaire. On n'a pas parlé du premier millénaire, simplement deux mots. L'Empire hittite s'effondre vers 1180 et sans laisser de traces. Et ensuite, une nouvelle civilisation qu'on appelle la civilisation néo-hittite va surgir avec un certain nombre de villes importantes comme les villes de Carchemish, et on a des textes hiéroglyphiques à notre disposition, et en ce moment ce secteur est un secteur particulièrement opérationnel, et il y a des découvertes très importantes qui ont été faites et qui vont être faites probablement dans les prochaines années sur cette époque néo-hittite.
Michel Mazoyer, merci.
Merci beaucoup.